Tout de suite, là. Ah bah ça oui. A commencé.
Ben oui, ça a commencé.
L'émission a commencé.
Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes.
Mais, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Alors...
Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube. Alors attendez une petite seconde, je mets la musique. Paf ! Alors on a changé un petit peu de musique, c'est un télo qui nous a trouvé une belle playlist de classiques du grunge des années 90, forcément du grunge, repris façon lofi. J'espère que ça vous plaira. Le jeu Elden Ring doit être mentionné 3 fois dans ce stream, c'est contractuel, t'inquiète pas, il sera mentionné, et pas plus tard que... pas tout de suite. Hop. Alors, pourquoi on commence avec ça alors que non? Ça c'était pour la fin, voilà. On commence avec, évidemment, la nouvelle est toute chaude, elle vient de tomber, c'est des projects, KD Projekt, qui annonce une suite à The Witcher. Alors, est-ce que ce sera The Witcher 4? On ne sait pas exactement, parce que c'est une nouvelle saga. Alors, nous sommes très heureux de vous annoncer une nouveauté dans la série The Witcher. Un jeu vidéo qui est déjà en développement et qui démarrera une nouvelle saga pour la franchise. Voilà. Donc, peut-être que ce ne sera pas autour de Geralt et que ça partira sur de nouvelles bases. C'est un moment excitant pour nous, puisqu'on passe du Red Engine, qui a été utilisé donc dans les précédents The Witcher, au Unreal Engine 5. Ce qui nous permet de commencer un partenariat de plusieurs années avec Epic Games. Ça ne couvre pas seulement l'édition, mais aussi le développement technique Ah oui, ça ne nous donne pas simplement les droits sur l'Unreal Engine 5, mais aussi il va y avoir un partenariat sur le développement et même potentiellement une nouvelle version du moteur qui pourrait être plus adaptée à la fabrication du nouveau The Witcher, quoi. Voilà, on est en train de collaborer étroitement avec Epic Games, avec les développeurs d'Epic Games, dans le but de les aider à fabriquer un moteur qui soit capable de réaliser des expériences open world. Et pour l'instant, pas plus de détails. CD Projekt... disons que c'est un peu leur dernière chance, enfin là, c'est pas vrai, c'est pas leur dernière chance, mais en tout cas ils vont être attendus au tournant, quoi. Ils ont pas intérêt à se planter techniquement sur le prochain The Witcher, parce que là ça sera pas pardonné, quoi. Merci Silenius. Donc pas Good Old Games, si je pense que ce sera quand même sur Good Old Games, parce que Good Old Games, donc c'est la plateforme qui appartient à CD Projekt, et du coup ça m'étonnerait qu'ils aient pas dealé un truc pour que ce soit pas sur Good Old Games, quoi. Mais effectivement ce sera plutôt sur l'Epic Game Store que sur Steam, j'imagine. Quoique, pas forcément, hein, remarquez, pas forcément, il y a plein de jeux qui sont fabriqués avec l'Epic Games, avec l'Unreal Engine, et qui se retrouvent sur Steam. On verra bien, mais... Ça a déjà été annoncé que ça sera pas une exclue Epic Games Store. Ah d'accord. Bon bah voilà. Ouais, c'est pas... Voilà, de toute façon, l'Epic Games Store, quand un studio utilise l'Unreal Engine, eux, ils perçoivent des royalties sur le jeu. Donc, eux, leur seul intérêt maintenant, c'est que ça se vende bien, quoi. Il y aura une version PC, bon, j'imagine quand même, ouais. Au moins, ils ne développent pas un nouveau moteur graphique, ça devrait aider au niveau ressources humaines. Bah, souhaitons-leur. Mais souhaitons-leur aussi d'investir un petit peu dans le game design. Parce que c'est vrai que leur game design à base de points d'interrogation partout sur la carte, il commence à être sacrément daté, quoi. Oui, mais les royalties sont diminuées si c'est sur l'Epic Game Store. Ah, d'accord. Oui, ce qui semble normal, en fait. C'est-à-dire, en échange d'être vendu que en exclusivité sur leur plateforme, bah, ils te font une ristourne sur les royalties. C'est de bonne guerre, quoi. Pas sûr que ça aide un ingé moteur, c'est pas un gameplay programmeur ou un game designer. Oui, mais du coup, peut-être qu'il pourrait être amené à avoir moins d'effectifs du côté des ingés moteurs et justement profiter pour recruter des game designers. Bon, ça m'étonnerait, on verra bien, mais ou simplement se remettre en question. Ouais. Un triple A comme ça peut pas vraiment se permettre d'exclure un gros store non plus. Bah, ça dépend combien le gros store est prêt à payer, en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Quand il y a une exclue, c'est que derrière... Enfin voilà, c'est des gros sous, c'est des négociations, quoi. Sauf que ça vendra beaucoup, beaucoup plus sur Steam, dit Black Valk. Mais tu réponds déjà à quelqu'un. Mais justement aussi, c'est ça qui leur manque pour l'instant à l'Epic Game Store, c'est d'avoir un truc de la taille d'un The Witcher, d'un GTA ou d'un Elden Ring, enfin un truc qui met tout le monde d'accord et qui fait que si t'as pas le choix, tu vas passer par la plateforme, quoi. Bon alors, t'y réfères, toi t'as pas aimé Elden Ring. Hein. Surtout pas du Elden Ring partout, il faut dépoussiérer. Mais par pitié, pas cette ode au néant. Bon, évidemment, je suis pas d'accord, hein, mais je peux entendre. Mais en tout cas, ouais, là où on est d'accord, c'est que la formule de l'open world, il faut la dépoussiérer, quoi. Pourquoi les gens veulent pas utiliser l'Epic Game Store? J'ai pas saisi, je t'avoue que moi non plus, c'est pas... Onduril, c'est pas des... Je suis pas trop dans la polémique là-dessus, mais il y a sûrement des très bonnes raisons, j'en doute pas. C'est vrai que je m'y suis pas spécialement intéressé. Bon, moi ça me dérange pas de passer de temps en temps par l'Epic Game Store. Enfin si, je préférais que tout soit un seul endroit parce que je suis une feignasse, mais bon, ça me fait pas dresser les cheveux, quoi. Putain, elle est tellement bien la playlist qui nous a trouvé. J'espère que vous l'avez bien, hein, la playlist. Que vous l'entendez bien. Elle est tellement bien. En termes de launcher, Epic Game Store est loin derrière Steam. Alors ça oui, par contre, je suis d'accord. Je préfère nettement utiliser Steam que d'utiliser l'Epic Game Store. Après, ça va. Bon, t'arrives à jouer à tes jeux, c'est ce qui compte, quoi. Ah, faut que je monte un peu le son, alors. Hop là, j'ai monté un peu, j'espère que ça couvrira pas trop ma voix, mais vous me direz. Ouais, franchement, il faut aussi des open world à marqueur, les jeux où on se perd, ça doit rester la minorité et pas l'essentiel de la production. Je suis pas d'accord, je pense que un jeu où on se perd... quand c'est bien fait, bah c'est trop bien. Mais par contre, effectivement, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire de l'open world que la formule Zelda Elden Ring qui est sans marqueur, sans rien du tout, et qui ne soit pas non plus la formule Ubisoft. Justement, s'ils pouvaient être un peu créatifs là-dedans... Alors, en parlant d'Elden Ring, justement, bon, ça, c'est comme ça, on aura fait le truc, on l'aura suffisamment mentionné. Eh ben, Elden Ring, malgré les mauvaises langues du chat, ça se passe bien pour lui, parce qu'il a déjà vendu plus de 12 millions de copies dans le monde. En moins... Attends, ouais, en beaucoup moins... Ouais, en moins d'un mois. en 3 semaines, quoi. 12 millions, c'est pas mal, ouais. 12 millions, c'est vraiment énorme, surtout quand on sait que, ils le disent, Sekiro, par exemple, le précédent jeu de From Software, il s'était vendu à 2 millions d'unités en 2 jours, en 10 jours, pardon. En 10 jours, donc avec Elden Ring, on est quand même vraiment, vraiment au-dessus. Et puis surtout, Dark Souls 3, qui était le titre le plus vendu dans l'histoire de Bandai Namco. Il avait vendu 3 millions d'unités en un mois. Donc c'est vraiment un carton plein pour Elden Ring et Bandai. Bon, on voit que From Software, ils sont passés à l'étape supérieure, en fait. À l'étape supérieure de... en termes de studio, quoi. C'est-à-dire, avant, c'était un studio respecté, adoré, mais qui restait dans une certaine niche. Et là, ils viennent de se poser à côté de CD Projekt, à côté de Nintendo ou de Rockstar, dans une moindre mesure. Mais voilà, ils atteignent... Ouais, Sekiro, c'était pas Bandai Namco, c'était Activision. Mais c'était From Software, du coup, ça permet de voir un petit peu quel genre de score font d'habitude les jeux From Software. Sur les 12 millions, combien ont passé les 2 heures de jeu avant de le fermer pour toujours, Moeva ? Ben, je sais plus. Alors, il y avait une stat, elle n'est pas dans l'article, je crois, mais il y a quand même 80% des joueurs qui ont passé le premier boss. Le premier boss, enfin, vrai boss, c'est-à-dire Margit. Ce qui est pas mal, en fait. Franchement, 80% des joueurs qui passent le premier boss, c'est quand même pas mal, quoi. Et voilà, Bloodborne, c'était 1 million d'unités en 2 semaines. Qu'est-ce qu'il était bien, Bloodborne, aussi. Ah oui, merci à Brett de Sinclair. Ah, tu fais partie des 20% fiers pour moi. Oui, mais après, bon... Je comprends aussi que, voilà, un jeu d'une telle... avec une telle hype dont tout le monde parle, etc., bah forcément, il y a plein de gens qui l'achètent et qui, malheureusement, constatent au bout de 2 heures que, bah non, c'est pas pour eux. En fait, ils aiment pas trop, quoi. Et c'est normal. C'est normal, et je pense que un jeu comme The Witcher, par exemple, ça doit être la même chose. Je pense que The Witcher, il y a plein de gens qui l'ont acheté. Tiens, bah, il y a pas si longtemps, j'ai un pote qui fait pour la première fois The Witcher 3 et qui m'a dit, il a joué 2 heures et il a dit, ouais, non, je peux pas, en fait. Je peux pas, il y a trop de dialogue, c'est trop chiant, ça m'emmerde. Donc bon. Je vois pas ce que tu veux dire, Styrefer. J'avoue que le côté deux poids, deux mesures de la presse et des streamers a été particulièrement saoulant. À nouveau, regardez comment vous avez traité la couverture de New World et comment vous avez traité celle d'Elden Ring. Je vois pas ce que tu veux dire. Enfin, ce que tu veux dire par le deux poids, deux mesures, en fait. C'est énorme, 80% des joueurs qui vont jusqu'au premier boss. Je sais pas si c'est énorme, mais c'est correct. Enfin, oui, voilà, moi j'aurais un peu la réponse de Fratus, c'est-à-dire... Je dis ça, j'ai pas joué à New World, donc j'en sais rien. Mais effectivement, j'aurais tendance à dire peut-être que sur les deux, il y a un très bon jeu, voire un jeu dont on parlera encore dans 10 ans, et à côté, un jeu moyen, quoi. Donc c'est pas une question de deux poids deux mesures ou d'être partisan ou quoi que ce soit, quoi. Et je ne parle pas de la qualité, le matraquage qui a eu sur New World a été le même qu'Elden Ring, avec le même, des milliers de joueurs ont acheté. Je comprends pas exactement. Et oui, New World est naze. Je comprends pas exactement. Bon. Ah oui, mais oui. Par contre, ouais, la différence, comme tu le dis, Intello aussi, c'est que New World, il a été effectivement bombardé par les streamers parce qu'il y avait des OPSP dans tous les sens. Elden Ring, il n'y a pas eu tellement d'OPSP. Hein. c'est vraiment bah, tout le monde s'est retrouvé avec un bon jeu. Alors évidemment la hype ça joue, hein. Tu sais, on se hype tous entre nous, enfin voilà, dans de l'avoir vu, évidemment que la hype c'est un truc, ça se construit, ça se travaille, et puis il y a aussi une part de des fois ça tombe sur quelqu'un, quoi, mais enfin sur un jeu en particulier, quoi, mais je pense pas qu'il y ait eu voilà de volonté. Regarde les stats de Twitch, ils n'ont pas eu de besoin de faire dopé. Bah oui, mais se tirer faire justement, c'est ça. Quand tu, si tu fais un jeu excellent, bah t'as pas besoin de faire dopé parce que le jeu est trop bien, donc les gens le stream. Enfin, c'est normal, quoi. C'est ça que je comprends pas. Ouais, par contre, un télo, quand tu dis « D'ailleurs, il n'y a pas eu tant de stream Elden Ring que ça en vrai. » Ouais, non, t'exagères un peu, parce que c'est vrai que pendant un moment, il n'y avait que des streams Elden Ring. Ça, c'est clair et net. Il veut dire qu'avec un tel matraquage... Ah, ok. Il veut dire qu'avec un tel matraquage, et s'il y a une masse de hype par les streamers pour Elden Ring, les ventes ne reflètent pas spécialement la qualité d'un jeu. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Si, c'est ça. Du coup, c'est de la pub déguisée et du coup, les gens se sont jetés dessus, surtout avec les discours tenus. Mais oui, mais juste ce qu'il y a à faire, c'est que... Qu'est-ce que sont censés faire les gens? À quoi ils sont censés jouer, en fait? C'est ça. S'ils aiment un jeu, ils y jouent, quoi, sur Twitch. Enfin, il faut bien qu'ils jouent à quelque chose, c'est le principe de Twitch, quoi. Mais effectivement, après, il y a un effet de mode. Ça, c'est sûr. C'est sûr, il y a un effet de mode. Mais... Il y en a eu des tas des OP Elden Ring. À la sortie, tout le monde était en OP Elden Ring. Je crois pas, Toxin. Toxin, je pense que tu confonds... Enfin, tous les gens jouaient Elden Ring parce que c'est ça que voulaient voir les gens. C'est-à-dire, les streamers jouaient Elden Ring... Parce qu'il y avait une demande du public. Mais c'est pas parce que Bandai Namco a envoyé des sous à arroser les streamers pour qu'ils y jouent. Vraiment, je crois pas, quoi. En tout cas, j'ai pas entendu ça. Mais pour moi, on a un environnement publicitaire déguisé qui devait être régulé plus étroitement. Mais ça, c'est tout le problème de Twitch, hein. C'est que, en même temps, tu fais du divertissement, et en même temps, ton divertissement... Quoi que tu fasses, c'est de la pub, en fait. Il y a eu un effet d'entraînement, la presse n'a parlé que de ça, les streamers et le public ont suivi. Ouais, mais ça c'est les effets d'emballement qu'on a dans toutes les productions artistiques, que ce soit dans le cinéma, c'est pareil, hein, y a toujours le film du moment, ou d'un moment donné, tout le monde en parle. Et effectivement, c'est un peu injuste... que ça éclipse d'autres trucs qui méritent autant, ou aussi ça donne la fausse impression qu'il y aurait des œuvres qui seraient universelles. C'est-à-dire que, par exemple, Elden Ring, tout le monde a dit que c'était bien, et donc il faut absolument trouver que c'est bien, sinon vous êtes un ringard. Mais pas du tout, en fait. Alors que vraiment pas du tout. Et ça, c'est un problème. Mais par contre, l'emballement, psychologiquement, il se comprend facilement, quoi. Vivement Ghostwire Tokyo. Bah là, les premières reviews de Ghostwire Tokyo sont tombées. C'est pas ouf, hein. Oui, on peut passer à autre chose. Hop. Et donc, en parlant des ventes... Alors, vous allez me dire s'il y a eu une OPSP aussi, hein. Donc, Crusader Kings 3, il se vend très bien aussi. Il s'est déjà vendu à 2 millions d'exemplaires. Alors, on n'est pas du tout sur les mêmes... Enfin... Moi, je dis on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, mais on est quand même sur un rapport d'échelle qui n'est pas non plus si délirant, quoi. Donc 2 millions pour Crusader Kings 3, avec 1 million du DLC... comment il s'appelle le DLC? J'ai le mot court. Royal Court, voilà. Et, mais ce qui est excellent pour un jeu, alors qui pour le coup est un vrai jeu de niche, quoi. Crusader Kings, c'est on parlait de jeu universel, Crusader Kings n'en est pas un, quoi. Et ce qui fait que c'est le jeu le plus vendu aussi rapidement de tous les temps de Paradox. Enfin, c'est un vrai, vrai gros succès pour Paradox, quoi. Ouais, 2 millions pour un jeu de stratégie, c'est vraiment fort. Ouais. C'est vraiment fort et tant mieux parce qu'ils ont fait un jeu quand même sans concession. Enfin, ils ont réussi à rendre un peu plus simple d'accès Crusader Kings, mais sans non plus, sans renier quoi que ce soit. Quoi. Ça reste un jeu toujours aussi riche, toujours aussi profond. C'est vraiment, vraiment très bien et tant mieux que ça fonctionne bien parce que ça leur indique qu'ils sont dans la bonne direction, quoi. Alors c'est vrai que ouais, il était dans le Game Pass aussi, ça joue aussi, mais non, là c'est les unités vendues, hein. Donc je pense pas que ça compte le Game Pass en fait. Mais c'est grâce à mes OPSP, effectivement Moeva, c'est grâce à mes OPSP sur Crusader Kings. Ce que n'oubliez pas, hein, à chaque fois qu'on parle d'un jeu, à chaque fois qu'on teste un jeu dans Canard PC, c'est une OPSP en fait. Mais plus sérieusement, ouais, non, c'est vraiment, vraiment cool que Paradox, qu'on leur indique qu'ils sont dans la bonne direction, quoi. Et puis 1 million pour le DLC Royal Court aussi, ça prouve que les gens qui l'ont acheté continue d'y jouer et continue d'avoir envie de plus de contenu, quoi. C'est pas simplement des gens qui ont acheté le jeu, qui l'ont lancé juste en 2 heures et en se disant ouais bon bah pff. Personne achète de DLC dessus. Bah si, on vient de dire, il y a 1 million de personnes qui ont acheté le DLC Royal Court. Donc l'effet Game Pass se confirme encore. Montrer un jeu qui s'avère bon dans le Game Pass, ça assure de grosses ventes derrière. Possible, ça, ce serait, à mon avis, ça serait très 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 difficile à évaluer précisément. Mais ah oui, d'accord, Alain Bashing, tu voulais dire personne n'achète les DLC sur le Game Pass. Oui. Oui, mais du coup, ça veut dire que ben voilà, les gens qui l'ont eu dans le Game Pass, ils ont accroché suffisamment pour acheter le DLC par ailleurs, quoi. Donc, Mais bon, en tout cas, voilà, si jamais vous n'avez encore jamais joué à Crusader Kings, j'ai l'impression quand même que dans le chat, vous êtes plutôt conquis par Crusader Kings, et c'est normal parce que c'est quand même, pour le coup, on est sur du core Canard PC, quoi. C'est vraiment, je pense que le lecteur Canard PC, c'est le joueur de Crusader Kings, et mais quand même, si vous vous y êtes pas mis, bah allez-y, quoi. Merci Cafrit. Jeu de trentenaire, ouais, même de je sais pas comment on dit au-dessus de trentenaire, quaternaire, quadragénaire, jeu de cadra, c'est un jeu de cadra. Eh non, Blob Marais, désolé, tu n'es pas un vrai lecteur si tu ne joues pas à Crusader Kings. Je pense que, ouais. Mais oui, c'est Crusader Kings et Minecraft, on en parlait dans une émission. Je pense que Crusader Kings et Minecraft, c'est les deux jeux que j'emmène sur une île déserte. Et si je dois en choisir qu'un des deux, les deux me vont, quoi. Voilà, des jeux auxquels tu peux jouer toute ta vie. Hop, qu'est-ce que c'était que ça? Ah, le nouveau Sam Barlow. Il y a Sam Barlow qui a annoncé que son nouveau jeu s'appelle Immortality. Alors ça ressemble beaucoup à ce qu'il avait fait sur... comment ils s'appelaient les deux autres jeux de Sam Barlow, Telling Lies et... c'était quoi le premier? Her Story. Voilà, Her Story et Telling Lies. Donc des jeux d'enquête basés sur du FMV. Et alors attendez, je vais vous mettre... le trailer. ça ressemble beaucoup, c'est-à-dire ça va être encore du FMV et encore de l'enquête à base de vidéos. Et pour cause, puisque en fait, le... Attendez, il le dit... Que... Non, je vais regarder parce que j'ai peur de vous dire des bêtises. Donc je vous laisse un petit peu le trailer. Ah, Telling Lies est sur le Game Pass d'ailleurs. Ouais, bah jouer à Telling Lies, moi j'ai trouvé ça assez fascinant comme, comme jeu Telling Lies. Alors voilà, le but c'est d'enquêter sur des vidéos. Alors avant c'était plutôt de trouver des bouts de vidéos. Là il y a l'air d'avoir une sorte de fonction d'édition, enfin d'aller un petit peu plus loin sur, le, sur ce qu'on va pouvoir voir dans les vidéos. Donc bon, on verra bien quoi. Mieux vaut emporter The Forest sur une île déserte, Damien Detch. Ben non, parce que... bon, déjà, Minecraft aussi, hein, ça se passe... Enfin, t'as des îles, quoi. Mais surtout, The Forest, il y a une fin. Crusader Kings et Minecraft, il n'y a pas de fin. Alors... Parce que là, ils disent que c'est un jeu interactif, un film-jeu interactif, mais un triptyque. Et je sais pas si... Ils veulent dire que ce nouveau jeu Immortality est un triptyque, mais je pense pas. Je pense qu'il veut dire que c'est le dernier jeu du triptyque Her Story Telling Lies Immortality. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et donc il faut s'attendre globalement à peu près au même délire que Her Story Telling Lies. Et bah franchement pourquoi pas, parce que c'est quasiment le seul à faire ce genre de jeu et c'est super bien donc... Damien Detch, t'avais compris l'inverse, que c'est le premier volet d'un triptyque à vérifier, parce que je suis pas sûr de moi du tout. Merci Youfak. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, on verra bien. Ah, la playlist, il y en a qui veulent la playlist, attendez, je vous remets la playlist dans le chat. Hop là, et voilà la playlist. Hop, on passe à la suite. Alors j'ai vu cette news comme quoi les gens, comment on dit ? Les insiders, non c'est pas des insiders. Bon les abrutis. Les abrutis qui ont dit que Frostpunk 2 sortirait le 2 janvier 2024 se sont plantés. Et du coup 11bit Studio, le studio c'est polonais je crois, 11bit, vous allez me corriger si je dis des bêtises mais je crois que c'est polonais, a dit que non, la date de sortie n'était pas encore décidée et que ça sortira pas le 2 janvier 2024. C'est qu'en fait, ils avaient dû mettre une fausse date de sortie sur Steam pour pouvoir faire créer la page du jeu. Mais voilà, c'est... Il sortira le 3, en fait. Ouais, ce serait marrant. En vrai, ça serait un bon pied de nez, quoi. Et ouais, c'est polonais, ouais. Et mais pourquoi cette news ? Juste parce que j'avais complètement oublié que 11bit Studio travaillait sur Frostpunk 2. Et ça m'a fait bien plaisir de me souvenir de ça, parce que Frostpunk, le premier Frostpunk, c'était vraiment très 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 bien, quoi. Si vous n'avez pas joué au premier Frostpunk, qu'est-ce que c'est ? C'est une sorte de city builder post-apocalyptique où vous allez devoir braver le froid en construisant des braseros et des espèces d'usines à charbon géantes pour essayer de chauffer vos habitants. Pendant que autour d'eux, il y a des tempêtes à moins 80 degrés qui balayent un monde désertique, quoi. Et c'est vraiment trop bien. C'est vraiment super bien. Si vous n'avez pas joué à Frostpunk aussi, allez-y sans problème. Et ce qui est bien pour un city builder, c'est que il y a des scénarios. Et c'est un jeu qui a une fin aussi. Enfin, vous pouvez évidemment jouer en mode sans fin, mais c'est un jeu avec voilà, que vous commencez et il va vous falloir, je pense, une dizaine ou une vingtaine d'heures, je m'en rappelle plus très bien, une dizaine ou une vingtaine d'heures pour arriver à la fin du jeu. Et après, vous avez d'autres scénarios. Mais voilà, ça évite, si vous avez peur de perdre trop de temps en jouant à un city builder, c'est pas mal. Le Dark Souls des City Builders, je ne l'ai pas trouvé si dur. Enfin, ceci dit, c'est vrai que le premier scénario, j'ai dû le recommencer peut-être deux ou trois fois, peut-être trois fois quand même, pour le réussir. Mais du coup, ouais, ça doit durer une dizaine d'heures, donc c'est pas très grave de recommencer, quoi. Frostpunk dans mon backlog Steam depuis des années, et ben Captain Stupid, un jour où justement il fait un peu gris dehors et que t'as envie de te calfeutrer chez toi et tu montes un peu le chauffage, tu te mets Frostpunk et tu vas voir, tu vas être super bien. Ah d'accord, Kako, merci Kako d'avoir regardé sur la page Steam du jeu. Alors apparemment quand ils disent triptyque, non c'est pas triptyque par rapport pour le Immortality, le jeu précédent de Sam Barlow, c'est pas par rapport au fait que c'est le troisième jeu à FMV, c'est bien que dans le jeu il y a une histoire de triptyque, la dame sur laquelle on enquête a fait trois films, et voilà, donc merci de préciser. C'est, d'un côté c'est un peu dommage, parce qu'en fait j'aurais bien aimé que Sam Barlow finisse son délire avec les FMV, avec ça en apothéose, et ensuite qu'il fasse autre chose en fait. Mais bon, on verra bien. Cette version de Rape Me. Mais ouais, mais elle est trop bien cette playlist. Hein. Merci encore, Intello. Et non, mais les leakers, est-ce qu'ils ont donné des dates différentes à tous leurs employés pour connaître les leakers? Non, les leakers, ils ont juste vu que sur Steam, il y avait marqué 2 janvier 2024. Et ils ont dit, ah, ça va sortir le 2 janvier 2024. Et ElevenBit répond, non, on avait juste mis une date au pif pour pouvoir créer la page, en fait. Exactement comme quand tu mets une date au pif pour dire que t'as plus de 18 ans, quoi. Je verrais bien Frostpunk en cadeau Epic Game Store, mais je me demande s'il n'a pas déjà été en cadeau Epic Game Store Frostpunk. Ouais, comme dit Liam FL, si, ouais, voilà, tout le monde te dit que c'est déjà fait en fait. Mais je me demande si c'est pas pour ça que j'y ai joué d'ailleurs. Non, parce que j'y ai joué sur Steam. Ah, mais c'est pour ça que plein d'entre vous l'ont chopé et pas encore lancé. Ouais, bah lancez-le et jouez-y. Le même studio, ElevenBit Studios, avait fait This War of Mine, qui est vachement sympa aussi, mais moins agréable, beaucoup moins agréable à jouer. On sent que sur Frostpunk, ils maîtrisent plus le sujet jeu vidéo, quoi. Ils savent faire un bon jeu, où une fois que t'es dedans, t'as du mal à le lâcher. Donc... Sympa, ouais, pour encore une fois une bonne déprime. Alors... Il y a un truc bizarre avec Frostpunk, c'est que ça se passe dans un monde effectivement très très déprimant où il fait ultra froid, etc. Mais bizarrement, moi c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer en hiver parce que justement tu construis tellement de trucs pour leur donner chaud que t'es un peu avec eux, quoi, au bord des bras zéro, et t'as chaud avec eux autour des chauffages que t'as construits, etc. Et en fait j'aime bien y jouer en hiver à Frostpunk. Et le premier DLC de Frostpunk, j'ai pas fait le deuxième DLC, le premier DLC était trop bien aussi, parce qu'il te demande de choisir, en gros, entre nazisme et stalinisme. Et c'est les choix qu'on aime faire dans la vie. Voilà. Il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Et ça, c'est... Bon, voilà, c'est... Enfin, c'était bien fait. C'était très très bien fait. La DA est superbe, ouais. Les élections 2022, un peu bien joué, tonton yo-yo. Normalement, on fait pas de politique. Hein. Normalement, on devrait te ban, tonton yo-yo. Mais on va te garder parce que je pense que t'as tout résumé, en fait. Cet homme veut faire ban le chat, exactement, mais d'ailleurs c'est déjà en train de tomber. Vous tombez tous dans mon piège et les modérateurs se régalent. Alors faites-leur ce cadeau, hein. Faites-leur ce cadeau. Hop. J'ai pas lu la news suivante. J'ai pas lu la news suivante, on va la découvrir ensemble. Attendez, je mets le... Hop. Fuyez, c'est un appât à ban. Ouais, non mais oui, c'était... C'était vraiment un piège. Je vous ai tendu un piège. Vous n'êtes pas tombé dedans. À part, j'ai vu, il y a un message qui a été supprimé. Voilà, il y en a un qui s'est fait attraper vite fait. C'est un peu la toute petite... Vous savez, dans les films documentaires, la toute petite antilope qui court derrière le troupeau. Et bah oui, forcément, il y en a une qui se fait niaquer la patte par la meute de loups qui arrive derrière. Mais bon, ouais, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Ah, il y a eu un deuxième ban. Bon, bah, les modérateurs se régalent. Bon appétit. Bon appétit, les modérateurs. Alors, c'est un article, j'ai fait la traduction automatique, donc ça va être traduit vraiment à la zob. Ubisoft dévoile une nouvelle technologie de cloud computing conçue pour alimenter les mondes du jeu de demain. Ça s'appelle Ubisoft Scalar et ça promet d'aider à créer de nouveaux types de jeux. Les fameux loups chasseurs d'antilopes. Oui, bon, bah ça va. On n'est pas tous... hein ? Voilà. Moi, mon truc, c'est les jeux vidéo. C'est pas chasse, pêche, nature et tradition, quoi. Ubisoft a révélé une technologie de cloud computing qui, selon lui, lui permettra de créer de nouveaux types de jeux. Le directeur général d'Ubisoft Stockholm, Patrick Bach, alors on dit pas Bach, hein, on dit Jean-Sébastien Bach, et donc Patrick Bach, le directeur technique Christian Holmquist, et le directeur technique Per Olof Rommel ont discuté de la technologie appelée Ubisoft Scalar lors d'une présentation à la Game Developer Conference jeudi. Alors, ils ont dit que cela permettra à Ubisoft de créer des mondes de jeux plus grands et plus complexes que jamais, qui peuvent être mis à jour en temps réel et être peuplés par un nombre géant de joueurs, créant ainsi de nouvelles expériences sociales. Après une vidéo de révélation visible ci-dessous, attendez, je vais vous mettre la vidéo, on va la faire tourner en même temps. Le directeur produit de Scala, Rommel, mauvais choix de nom, a lancé une section de questions-réponses de la présentation en expliquant ce qu'est la technologie. Ubisoft Scalar est une technologie fondamentale qui permet au titre Ubisoft d'utiliser la puissance du cloud. En substance, c'est ce que c'est aussi, c'est vraiment un énorme changement de mentalité. Essayez de regarder dans le futur 10 ans et imaginez ce que les jeux devraient être, pourraient être, et ce que vous pourriez attendre des jeux et comment vous les créez. Bon, là, c'est vraiment du pur bullshit. On croirait qu'il est en train de nous vendre des NFT ou le métaverse, quoi. Mais bon. Oui, bah... Non, mais de ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que... Alors, c'est du cloud gaming, mais pas que du cloud gaming du côté de l'utilisateur, mais aussi du côté du développeur, où ils se servent de la puissance du réseau pour faire des trucs bon, qu'on ne pouvait pas faire avant, apparemment. Faire quoi ? Bah ça sera au game designer de l'inventer, quoi. Bon, pour l'instant, on ne voit rien du tout. Hein. Un générateur d'open world Ubisoft, une certaine vision du purgatoire. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Et c'est vrai qu'ils sont très à appâter les investisseurs hein, Ubisoft. Ils ont absolument envie que le futur, c'est eux, quoi. Ah, peut-être que Yves Guillemot cherche à vendre. Ouais, peut-être. Ouais, remarque. Voilà, vous l'avez emmerdé, Yves, il en a ras-le-bol, quoi. Donc là, on voit... Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Bon, ah ouais, ça, voilà, bah, j'ai l'impression que ce qu'ils essayent de nous dire, c'est que ça va permettre de faire des open world de la taille d'une planète. Super. Bon, après, c'est pas ça qui va la remplir, hein, mais bon. C'est pas parce que c'est plus grand que ça sera pas plein de vide. Bah oui, Barberousse, justement, à un moment où beaucoup de gros studios commencent à se dire, finalement, la formule de l'open world, est-ce que c'est, ça vaut pas... Est-ce que la formule Uncharted n'est pas meilleure que la formule open world? Non, Ubisoft, ils disent, non, nous, on va faire des planètes entières, quoi. Donc, Bach, qui était le directeur général du studio Battlefield Dice, avant de rejoindre Ubisoft, a déclaré que lorsque le studio de Stockholm a été créé en 2017, ils ont eu le mandat de sortir des moules que nous savons sur la façon de créer des jeux et de pousser la technologie plus loin. C'est trop bien la traduction automatique. Donc on lui a demandé de sortir des moules en fait. Il a déclaré, comment réimaginez-vous ce que les jeux devraient être et pourrait être à l'avenir, et puis commencer à construire vers cela pour créer de nouvelles expériences, parce qu'en général les jeux sont généralement une itération de ce qui a été fait auparavant. Nous voulons nous en libérer et construire quelque chose de grand. Ça veut rien dire, mais même là pour le coup c'est pas un problème de traduction, c'est juste le mec il enchaîne des éléments de langage quoi. Rommel a déclaré que Scalar signifie que la création de jeux ne sera plus freinée par les limitations que les plateformes matérielles imposent au développement. Alors bon, voilà, là on, je pense qu'on est dans le cœur du sujet, c'est ça. C'est de mettre à contribution des ordinateurs en réseau, enfin voilà, pour éviter, bah, pour pouvoir faire des choses beaucoup plus puissantes que ce que pouvait faire tourner votre PlayStation 5 ou votre 1080 RTX quoi. Donc là, oui, pourquoi pas, voilà, ce sera plus puissant. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Cette limitation a toujours été là depuis que nous avons fait des jeux. En réalité, ce que nous avons vraiment bien fait, c'est de cacher ces limites et de contourner les limites. C'est en quelque sorte notre expertise, en fait. Maintenant, ce que Scalar nous permet réellement de faire, c'est de supprimer totalement ces limitations plutôt que de repousser les limites de celle-ci. Ok, ouais, c'est un peu... Bon, c'est... On comprend, c'est un peu ce que je viens de dire, quoi. Cela nous prépare à un nouvel ensemble de défis, c'est-à-dire que maintenant ce que nous savons n'est plus pertinent, nous devons repenser et réapprendre la façon dont nous créons des jeux pour créer des expériences que nous voulons réellement. Donc, cela change tout. Ouais, bon, encore une fois, c'est... Ouais, blabla, ouais. Rommel a déclaré que la technologie cloud de Scalar ne doit pas être confondue avec le streaming de jeux. Le streaming de jeux est un modèle de distribution. Il améliore l'accessibilité des jeux, mais cela ne change pas essentiellement ce que sont les jeux et leur qualité. Maintenant, ce qu'est Ubisoft Scalar, c'est la qualité et les possibilités qu'il ouvre pour nous en tant que développeurs de jeux et joueurs. Oui, bon. Bref, je pense qu'on a compris, hein, en fait, ce qu'il voulait dire. C'est mettre à contribution le réseau pour permettre de dépasser les limitations de chaque machine, quoi. Bon, on va pas se faire tout l'article, hein. Un aspect, ouais, si, y a quand même un aspect très important que Scalar apporte est que les services sont toujours disponibles, a déclaré Amquist. Le jeu est toujours en cours d'exécution et il est toujours possible de mettre à jour des parties de ce jeu afin que les développeurs puissent créer des mondes très riches qui peuvent se développer, évoluer et changer au fur et à mesure que les joueurs y jouent, de sorte qu'il créera un lien beaucoup plus étroit entre les joueurs et les créateurs. Ok, ça permettrait aux développeurs de changer le jeu au moment même où vous êtes en train d'y jouer, mais ça, je vois pas... Bon, comme ça, de loin, j'arrive pas à voir l'intérêt. Mais bon, je leur laisse avoir les bonnes idées. Qu'est-ce qui différencie vraiment du streaming? C'est que le streaming, en fait, enfin, le jeu, là, en streaming, par exemple, chez Stadia, ça reste toujours, t'as une machine qui fait tourner ton jeu à un endroit et qui la stream vers toi, ton écran. Mais là, l'idée, ce serait de se passer de la machine, ou plutôt de mettre toutes les machines en réseau pour avoir une puissance de calcul qui soit, j'imagine, démultipliée, quoi. Et bon, voilà, après, il y a des vœux pieux... Vous pouvez également créer des simulations mondiales à une échelle et une complexité que nous n'avons jamais vues. Mais effectivement, ça reste toujours la question de comment tu remplis ça sans que ce soit... enfin, en faisant quelque chose d'intéressant. Parce que là, remplir un monde ouvert, c'est un petit peu comme si... à l'invention de la machine à écrire, on avait dit, regardez, les écrivains, ils vont pouvoir écrire beaucoup plus vite, et donc faire des livres beaucoup plus longs, et donc ce sera bien mieux. Bah non, ça changera pas, ça change rien au fait qu'à la base, écrire un bon livre, c'est avoir une bonne histoire, c'est savoir bien écrire. Que tu puisses écrire vite ou pas vite, ça change rien. Là, c'est un peu la même chose, quoi. Bon, la métaphore est un peu vaseuse, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, vous avez compris. Ou alors vous êtes vraiment très gentil. Voilà, c'est ça, Zentrodi. La taille du livre change rien si t'es pas un bon écrivain, quoi. Mais par contre, c'est vrai que la machine à écrire a changé la façon d'écrire, oui. Effectivement. Mais pas non plus tant que ça. Enfin, c'est pas non plus... Là, sur Arte, je revoyais, ils ont une série sur Arte qui s'appelle Les Grands Mythes. Et il retrace toute la guerre de Troie. L'Odyssée, pas l'Odyssée, l'Iliade. Toute l'Iliade, voilà, qui remet en scène, etc. Et c'est fou à quel point l'écriture de l'Iliade, pas l'écriture pure, mais ce qui est raconté, l'histoire qui est racontée dans l'Iliade, est extrêmement moderne encore aujourd'hui, quoi. Et ça reste une bonne histoire encore aujourd'hui, quoi. Et ça, bon, c'est pas une question de... Enfin voilà, une bonne histoire est une bonne histoire est une bonne histoire. C'est pas une question de est-ce qu'elle a été écrite sur un papyrus ou est-ce qu'elle a été écrite sur le cloud. Surcoté l'Iliade. Ah non, je trouve pas Tonton Yo-Yo. Justement, moi je la découvrais un peu, enfin bon, je connais un petit peu, mais là c'est la première fois que je voyais vraiment un truc quoi, qui vraiment me plongeait dedans. Et non, pas du tout surcoté l'Iliade, ça déboîte. Justement, c'était ça. Moi je comparais par exemple à la Bible, par exemple. Bon, je suis désolé, on rentre sur des trucs, mais la Bible, c'est aussi, il y a plein de récits dans la Bible, d'aventures, voilà. Et je trouve, mais l'Iliade, mais mille fois plus moderne en fait dans les thèmes que ça aborde. Voilà, encore un apo à Van. Ouais, non mais vous allez tomber comme des mouches. Voilà, c'était mon but ce soir. L'épopée de Gilgamesh à 4000 ans, et quand on la lit, on dirait un manga shonen moderne. Alors j'ai pas lu l'épopée de Gilgamesh, mais non, il y a des trucs dans l'Iliade là où ouais, tu le ce serait encore du génie aujourd'hui, quoi. Voilà, c'est pas du tout ouais, c'est hyper moderne. Bref, pas de spoiler please. Ouais, bon, après t'as un peu 2000 ans de retard hein, pour le spoiler, donc Et ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'on avait ça. Je me disais... Bon, bah on va regarder... Ah ouais, mais attendez, on va pas le regarder comme ça. On va le regarder en tout petit. Vraiment. Si je fais comme ça... Ah mais non. Ah, on peut le regarder comme ça. Trop bien. Et bah voilà. On va parler en même temps, hein, parce que vous l'avez tous déjà vu, le trailer, enfin c'est surtout, c'est méga long, en fait il manque la moitié du jeu sur leur trailer. Non, on va pas forcément tout regarder, ou alors si on regarde tous et qu'on discute en même temps. C'est pas la cible de Canard PC. En vrai, moi je suis pas Potterhead, hein, vraiment, enfin Harry Potter ça va, j'aime bien, mais sans plus, le jeu me fait un peu envie quand même. Je l'ai pas vu, ça s'annonce bien. Ouais, franchement, je trouve que ça s'annonce bien. Il y a quelques petits trucs qui font douter, notamment les combats, où tu te dis, wow, ça a pas l'air top, 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 les combats. Mais par contre, effectivement, je comprends Isual et Hélène Ripley. qui sont les deux Potterhead de la Red DAC, et qui disent c'est le jeu qu'on attendait depuis 25 ans en fait. Et qui c'est qui retourne vers un open world, c'est Noël. Je suis un impénitent. T'as lu le texte de Jesse Earle sur GameSpot par rapport à J.K. Rowling et le jeu? Non, j'ai pas lu. Je t'avoue que... Moi, la polémique J.K. Rowling... J'ai pas envie de suivre, en fait. Voilà, j'ai pas envie de suivre, même si c'est important, et même si... c'est important, c'est des choses importantes dont il faut parler. C'est quoi la polémique? C'est qu'en gros, J.K. Rowling, elle enfile les conneries transphobes comme les perles, quoi. En gros. Et que du coup, évidemment, là maintenant c'est un jeu Harry Potter, donc la question est remise sur le tapis, quoi. Homophobe, je savais pas, mais transphobe, ouais, carrément. Mais je vous avoue que moi je préfère l'oublier en fait. J.K. Rowling, je m'en fous. Les bouquins Harry Potter sont bien, moi je les trouve vraiment bien. C'est pas non plus le truc qui me fait grimper au rideau, mais je trouve que c'est vraiment des bons bouquins. Et après que ce soit que l'autre puisse être une connasse, je m'en fous en fait complètement, voilà. De la même manière que y a plein de livres que j'aime bien qui ont été écrits par des gens pas tip top, et je m'en fiche en fait. Mais en tout cas, pour revenir au jeu, ouais, genre Lovecraft par exemple, ou genre Céline, mais ou plein, hein, enfin bon, il y en a plein, mais pour revenir au jeu, bon, ce qui est cool, c'est d'avoir j'ai l'impression qu'ils ont réussi à garder l'aspect merveilleux, parce que on dit souvent de Harry Potter que c'est du fantastique. En fait, moi, je trouve que Harry Potter, c'est moins du fantastique que du merveilleux. C'est-à-dire, il y a un côté... T'as envie d'y habiter. En fait, quand tu lis Harry Potter, t'as envie d'habiter dans Poudlard. Ça a l'air trop bien, quoi. Et ils ont réussi, apparemment, là, de garder ce côté vraiment plein, plein de mystères où t'as envie de te perdre partout et où il se passe tout le temps des tas de choses. Les 20 FPS sur certaines scènes, ça fait un peu peur. Le jeu est encore en développement. Je sais plus, ils disent à la fin quand est-ce qu'il sort, mais on a le temps. C'est quoi comme type de jeu? Ça a l'air d'être une sorte d'open world petit. Je le dirai après. Ça a l'air d'être une sorte de petit open world avec plein de mystères, plein de petites quêtes. Il y a plein de quêtes annexes. Tu peux explorer aux alentours de Hogwarts. Tu auras aussi des villages. T'as des tas de puzzles, des combats. Des combats qui n'ont pas l'air fifou pour l'instant. Action RPG, ouais, voilà, on peut dire action RPG ou... Ouais, action RPG, en fait. Mais quelque part aussi, il y a un petit côté, c'est que ça me rappelle, moi, un de mes jeux préférés et qui m'exciterait beaucoup plus si c'était ça qui avait été annoncé, c'est Bully, Canis Canamedit, le simulateur de lycée de Rockstar, qui était trop trop bien. Et alors là, s'ils me font un Bully 2, je peux vous dire que là, par contre, vous m'entendrez hurler, quoi. Et c'était trop bien. Si vous n'avez pas fait Canis Canamedit ou Bully, bon, maintenant, malheureusement, ça a un peu... ça a un peu vieilli, mais c'est tellement bien, quoi. Ouais, je pense pas non plus, Ticker, qu'on pourra jouer un méchant sorcier. Hein. Le but, ce sera de te faire jouer une aventure à la Harry Potter, quoi. Je pense qu'on va rester sur une base de gameplay très très classique, très convenue, qu'on connaît déjà, quoi. C'est vrai qu'un open world disque monde, ce serait vraiment bien aussi. Et ce serait compliqué, hein. C'est tellement barré, le disque monde, que... En fait, je me demande si ça aurait un sens d'en faire un open world, le disque monde. Je suis pas sûr, en fait. Jouer une petite enflure comme Draco pour avoir du charme. Ouais. Mais alors là, on voit les combats. Ça a l'air un peu statique, quoi. Ça a l'air un peu statique et puis, je sais pas, ça ressemble pas... C'est pas tellement ça que j'imagine dans Harry Potter, mais bon, bref. Ouais, il y a eu les jeux d'aventure Discworld qui étaient vraiment bien, mais c'était pas des mondes ouverts. Je me demande à quoi ça servirait d'en faire un monde ouvert, en fait. Alors la casse perdue, tu dis un bon jeu ne vieillit pas si il y a des jeux qui vieillissent plus que d'autres. Les jeux Rockstar par exemple sont typiquement un genre de jeu qui vieillit. Les jeux de la première PlayStation, pour la plupart, ils sont difficilement jouables aujourd'hui, ils ont vraiment vieilli quoi. Alors que les jeux de la Super NES, qui étaient une fin de génération 2D, vieillissent beaucoup moins. Voilà, bon c'est... Bref. C'est-à-dire quoi, un jeu qui vieillit, bah je... Oui, c'est subjectif, hein. C'est subjectif, mais c'est comme un film qui vieillit, c'est comme... Tu vois, bah, par exemple, t'as des films des années 70 qui n'ont pas pris une ride, tu les regardes aujourd'hui et tu te dis ça aurait quasiment pu être tourné aujourd'hui, et t'as des films du début des années 2000, quand on commençait à utiliser la technologie numérique, où tu les vois aujourd'hui et tu fais « Waouh, ça pique les yeux, quoi !» Deux exemples faciles entre un film qui a bien vieilli et un film qui a mal vieilli. Star Wars, le premier Star Wars a hyper bien vieilli quand tu considères l'âge que ça a, et encore aujourd'hui ça passe très très bien. T'as des films de science-fiction de cette même époque qui essayaient de mettre des éléments numériques ou des trucs comme ça, et aujourd'hui ça te fait saigner les yeux, quoi. Voilà. Ouais, le premier Alien de 77, c'est... il n'a pas pris une seule ride. Pas une seule ride, quoi. On passe à la suite. Hop. Ah bah la suite, oh bah non. Bah non, en fait, il n'y aura pas de suite. Il n'y aura pas de suite parce que... comme ça, on finit sur le... Sur le segment... sur le segment trailer, et c'est très bien. ...79 Alien, oui, mais bon, entre 77 et 79, ça change pas grand-chose, quoi. Ah mais si, il y avait le Humble Bundle, mais il est passé où ? Ah mais j'ai fermé la page sans faire exprès ? C'est pas possible. Ah mais si, non, ok, je vous dis de la merde, en fait. Alors non, c'est pas fini, partez pas. Hop... Merde. Bon. Hop. J'ai fermé la page en pensant que c'était autre chose. Merci de me l'avoir rappelé. Hop là. Le... Un autre bundle pour soutenir l'Ukraine, si vous avez envie de donner un petit peu d'argent aux associations humanitaires qui viennent en aide aux victimes de la guerre, c'est un bundle cette fois-ci proposé par Humble Bundle, et donc il y a des jeux un petit peu plus, un peu moins purement indé. Que ce qu'on avait eu dans le bundle Itch.io. Alors ça coûte un petit peu plus cher, c'est pour 36 dollars, enfin 37 dollars on va dire aussi pareil. Pour 37 dollars vous avez accès à 123 jeux, et dans ces jeux il y en a qui sont, bon il y a Back 4 Blood qui est quand même sorti juste cette année, donc pourquoi pas. Metro Exodus, je crois qu'il était très bien, j'y ai pas joué moi, mais j'en avais eu des très bons retours. Et ce sont des clés Steam ou Epic avec ce bundle. Je crois que c'est des clés Steam. Ou les, où t'as les deux. Bon bah Satisfactory hein, évidemment. Bon la trilogie Spyro, faut avoir envie. Max Payne 3, je sais pas ce qu'il vaut. This War of Mine, on en parlait tout à l'heure. Bah, This War of Mine, même si je préfère quand même beaucoup Frostpunk, ça se fait toujours. The Long Dark que j'avais commencé l'année dernière, qui avait l'air vraiment vraiment chouette. Slay the Spire, c'est la drogue absolue. Ring of Pain, un peu dans le genre de Slay the Spire, qui est très que chouette. Qui est chouette, mais je préfère Slay the Spire. Endless Space 2, je crois que c'est un 4X très qualitatif, si je dis pas de bêtises. Max Payne 3 est très cool, nous dit Intello. J'en ai déjà largement assez avec le bundle Itch.io. Ouais, bah Ninja Automata. Mais après, je pense que ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas exactement sur la même catégorie de jeu, quoi. On est sur de l'indé un peu plus budget, quoi. Enfin, avec un peu plus de budget que le bundle Itch.io, où en général, c'est vraiment du petit indé. Et donc, c'est bien, ça peut se compléter si vous avez envie, quoi. Du triple I, ouais, c'est ça. Ouais. Endless Space, c'est Amplitude, donc français, effectivement. Starbound, c'était cool aussi, mais j'y ai pas énormément joué. Mais ouais, c'était bien cool. Et après, bon, il y a des jeux moins... Ah, Crying Sun, c'était sympa aussi. Amnesia pour les jeux d'horreur. Wargroove, on en parlait la dernière fois. Wargroove, si vous avez aimé les Advance Wars, Wargroove, c'est top. Après, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de jeux que je vois dans ce bundle. En fait, moi, c'est des jeux auxquels j'ai joué sur Switch. Et pour ça, elle est trop bien, la Switch, quoi. Ouais, Wargroove est vraiment cool, ouais. Mais Wargroove sur Switch est trop bien, parce que c'est trop bien de l'avoir sur Switch en portable, quoi. C'est un jeu parfait pour y jouer en portable. Kingdom Two Crowns, il y était déjà dans le bundle Itch.io, et toujours aussi bien. Bref, voilà, vous avez énormément de choses. Et puis, évidemment, si vous avez envie de donner un petit peu plus d'argent, vous pouvez. Hein. Et je sais qu'il y a des gens qui se posent la question aussi, en général, de savoir est-ce que... Enfin, qui ont envie de savoir où vont leurs sous. Pareil avec le Humble Bundle. Enfin, Humble, c'est... Bon, c'est connu, voilà, c'est un truc connu, et les sous sont bien utilisés en général, enfin, vous pouvez vérifier, n'hésitez pas à vérifier par vous-même, mais oui, Kerbal Space Program, évidemment, Oli, mais ça, bon, je pense que tout le monde sait que c'est trop bien Kerbal Space Program, quoi. Le bundle idéal pour aller avec votre nouveau Steam Deck, ouais, c'est pas con, quoi. Ouais. Ouais, franchement, il y a plein de jeux qui se jouent en mobile trop bien, quoi. Genre, Slay the Spire, Ring of Pain, Wizard of Legends, très bien en mobile aussi, Wargroove, trop bien. Enfin, voilà, plein de jeux à jouer en mobile. Oui, après, il y a des jeux moins bien, évidemment. C'est un bon cadeau d'anniversaire, ouais, effectivement. Il y a de quoi s'occuper. Et la musique s'est arrêtée. Bon, je vous la remets quand même vite fait pour la fin. Allez, hop. On se remet un petit coup de Nirvana Lofi. Mais voilà, la musique s'est arrêtée. Ça veut dire que c'est le signe que l'émission va se terminer. Vers qui on pourrait faire un petit raid cette fois ? Ah, attendez. Paf. Je mets comme ça. Vers angle droit, on me dit. Effectivement, on pourrait aller vers angle droit. Tu sais, c'est marrant. Ah ben si, je l'ai. Ouais, elle joue Elden... Mais non, attends, je l'ai plus angle droit. Pourquoi je vois plus angle... Ah, mais parce qu'elle monte In Silence. Je sais pas à quoi elle joue, mais bon, bah vous allez découvrir par vous-même. Hein. Tac. Et bah évidemment, plein de bisous à vous. Et puis soyez gentils avec Angle Droit. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et vous, vous retrouvez dès demain d'autres streams. J'ai pas regardé ce qu'il y avait, mais bon. Et voilà, des gros bisous à vous. Et merci Intello pour la playlist. C'était trop bien. Tchuss.